Bon réveil, bon dimanche, le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Manifestants par centaines de milliers hier partout en France contre la loi sécurité globale, mais les casseurs brouillent le message et contre-productifs renforcent les arguments de la majorité. Le retour de la messe à 30, pas plus, anti-républicains pour des curés culottés qui n'ont pas l'intention de respecter la consigne. Reportage à Lyon dans ce journal. Les commerces ouverts aussi le dimanche, pas sûr que ça suffise à éponger les dettes après un mois de fermeture, nous irons à Besançon. Et puis un livre sur le cyberpunk, coup de cœur inter. Et du sport, le rugby, la France bat l'Italie et part en finale de la Coupe d'automne des Nations avec un arbitre hier pas comme les autres, portrait à la fin du journal.
Et puis l'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera Claudia Sénic, professeure d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Elle sort un livre qu'elle a qu'elle a co-dirigé. Ce livre a pour titre « Crise de confiance » aux éditions La Découverte.
France Inter.
Entre la loi sécurité globale qui encadre la diffusion des images des forces de l'ordre et la récente vidéo de ce producteur passé à tabac, ils étaient des centaines de milliers hier dans les rues un peu partout en France, dans les cortèges des familles, des personnes âgées, certains qui défilent pour la première fois et puis aussi mélangés des journalistes, des politiques ou des associations comme cette militante dans le défilé à Périgueux.
La République française, elle n'est pas née n'importe comment. Donc elle est née aussi avec la liberté d'expression, la liberté d'être informé, c'est important. Moi, je dis que oui, il faut que la police reste filmée, parce qu'effectivement, si c'est dissuasif, ben, tant mieux. Parce que ce qui vient de se passer, moi, j'ai honte pour la France. Moi, la police, j'attends qu'elle me protège, mais pas avec des coups. J'ai jamais été battu, c'est pas un policier qui me battra aujourd'hui.
Côté chiffres, c'est toujours le grand écart. 130 000 personnes au total, dit le ministère. 500 000, disent les organisateurs, dont 200 000 à Paris. Une ambiance majoritairement pacifique, quelques incidents en fin de cortège à Rennes, Bordeaux ou Lyon. Mais le plus impressionnant, comme souvent, Paris, les casseurs, les Black Blocs ont incendié voitures, kiosques, brasseries tout autour de la place de la Bastille. La vidéo d'un policier à terre, roué de coups, a fait le tour des réseaux sociaux. Violence inacceptable contre les forces de l'ordre, tweet le ministre Gérald Darmanin. Une trentaine de policiers et gendarmes blessés selon Beauvau, une quarantaine d'arrestations aussi. Ces images ne font que brouiller le message des manifestants et au passage, comme un effet boomerang, Maxence Lambrecq apporte aussi de l'eau au moulin de la majorité.
Pas question d'offrir à ces casseurs de flics le scalp de ce texte, résume un pilier de la Macronie. Et en effet, à l'Élysée comme à Matignon, on ne retient officiellement que ce bilan et ces terribles images. Cette nouvelle séquence permet à Darmanin de se replacer, analyse un marcheur. Les Français réclament de l'ordre, il a toute sa place au gouvernement. Sous-entendu, la question se pose. Le ministre de l'Intérieur agace une bonne partie de la majorité. Il risque bêtement de s'accrocher à son article 24, peste un ténor du groupe, comme on s'est accroché à la taxe carbone face aux gilets jaunes et à l'âge pivot dans la réforme des retraites. Il faut savoir lâcher les chiffons rouges au bon moment. La porte de sortie la plus souvent évoquée se trouve dans le projet de loi laïcité avec son article 25 qui veut créer un délit de mise en danger de la vie d'autrui par publication d'informations personnelles. C'est l'histoire de Samuel Paty qui a guidé sa rédaction, mais il pourra autant protéger les enseignants que les policiers, affirme un conseiller ministériel, et ce serait une issue quasi immédiate, puisque le texte sera présenté dans 10 jours en Conseil des ministres.
Et image contre image, dans la manifestation, Reporters sans frontières a publié hier sur Twitter celle d'un photographe indépendant qui travaille pour Polka Magazine et l'AFP, le visage tuméfié et en sang. Il a reçu des coups de matraque alors qu'il était clairement identifié journaliste, assure le président d'RSF Christophe Deloire. Côté enquête, garde à vue prolongée pour les 4 agents mis en cause dans le passage à tabac de ce producteur de musique. Une garde à vue qui se termine cet après-midi. Selon le journal Le Parisien, les 4 agents interrogés depuis vendredi après-midi dans les locaux de l'IGPN ont nié devant les enquêteurs avoir tenu des propos racistes et assurent que leur action était légitime. On en saura plus tout à l'heure. Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, donne une conférence de presse à 17h.
C'est le retour des messes du dimanche pour la première fois depuis un mois.
Messe déconfinée, catholique remontée, car la jauge de 30 fidèles est impossible à tenir, disent-ils. La conférence des évêques a déposé un recours hier devant le Conseil d'État pour que ce seuil soit proportionné à la taille de l'église. En attendant, depuis hier, c'est le casse-tête des curés, comme ici à Lyon. Reportage Christophe Vincent.
Je signale aux personnes qui sont en train de rentrer qu'il y a une deuxième messe qui va être célébrée dans quelques minutes à la chapelle de l'Hôtel-Dieu.
vous aurez le choix entre deux lieux de culte. Vous avez la chance.
À Saint-Bonaventure, la jauge des 30 est dépassée, mais les fidèles sont très espacés. Le chapelain Bertrand Pinson laisse faire.
Moi, je suis prêtre, donc je célèbre la messe, j'annonce la bonne nouvelle. Je ne sais pas mon rôle de compter. Hein. Et puis, dans cette église, on peut contenir jusqu'à 1000 personnes.
Chez les fidèles, cette restriction passe mal.
C'est d'un ridicule sans nom.
J'ai besoin d'aller à la messe au moins une fois par semaine et 30 personnes, c'est pas assez, je trouve.
L'église est grande. 30 personnes, ce n'est rien du tout. Hein. On ne va quand même pas continuer comme ça. Hein.
À la basilique de Fourvière, la messe n'empêche pas les flux. Le recteur, Mathieu Touvenot.
C'est une partie qui est clairement délimitée, zone 30. C'est une grande basilique, donc on a toujours eu des gens qui passaient pendant la messe pour visiter. Voilà, bah on laisse les gens passer. Oui.
Le patron du diocèse, Monseigneur Dubost, ne digère pas cette mesure.
Je suis républicain, donc j'essaye de la faire respecter. Mais je suis républicain, c'est pour ça que nous avons introduit un référé pour la faire changer.
Ce soir, les évêques ont rendez-vous avec Jean Castex. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Moins classique que la messe du dimanche, le travail du dimanche. Et cette fois, la dérogation pour les commerces qui ont rouvert hier après un mois de fermeture fait l'unanimité. Il faut dire qu'avec la crise du Covid, chaque jour ouvert est bon à prendre, même si les dimanches ne suffiront sans doute pas à renflouer les caisses. Reportage France Bleu à Besançon, Rachel Saadonine.
Sandrine tient une boutique de vêtements pour femmes Grande Rue et elle a peur que sa clientèle ne soit pas au rendez-vous le dimanche.
Je viendrai, moi, tous les dimanches ouvrir en espérant qu'il y ait du monde. Enfin, j'y crois pas trop, mais il faut que je le fasse.
Un peu plus loin dans la rue, dans une autre boutique de vêtements, clientes et vendeuses confirment, le dimanche, ce n'est pas leur jour de shopping.
En général, le dimanche, je fais pas trop de courses.
Nous, on marche mieux le vendredi, samedi. Le dimanche, c'est entre deux, qu'on ne sait pas du tout ce que demain sera fait, si on aura du monde le dimanche ou pas, on ne sait pas.
Alors avant de décider de l'ouverture de sa boutique, Sabine a consulté ses clients.
On ne pense pas au dimanche parce qu'on n'a pas eu de demande. Donc les clients, on leur a proposé, nous ont dit non, non, pas utile pour nous, donc on verra au fur et à mesure au mois de décembre. Après c'est sûr que si on avait pu avoir un report des charges ou une annulation des charges, ça aurait été parfait, voilà.
Et des aides supplémentaires auraient aussi été bienvenues pour Nathalie, patronne d'un magasin de chaussures.
Il faut payer la marchandise, là on n'a pas de délai de report et les aides ne sont pas encore tombées. Les demandes ne vont se faire que début décembre. Là, pour l'instant, on n'a rien. C'est vrai que ça aurait été peut-être judicieux d'avoir les aides plus tôt.
Les commerçants n'espèrent plus rattraper leur chiffre d'affaires de 2020, mais juste essayer de faire du positif en décembre.
En bref, le vaccin va bientôt arriver. Celui du laboratoire Pfizer-BioNTech tient la corde pour l'instant. Le gouvernement se prépare donc à relever ce défi logistique. Présentation de son plan la semaine prochaine. A priori, pas de grands centres de vaccination comme en 2009. Souvenez-vous, contre la grippe H1N1, ça avait été un fiasco. Mais plutôt des vaccinations plus locales avec l'aide de médecins généralistes. On sait déjà que ce sera mission injection ciblée dans un premier temps qui devrait concerner dès le mois de janvier les personnes âgées les plus fragiles dans les EHPAD et les soignants les plus exposés. Soit 1,5 million de personnes au total avant une campagne de masse pour le printemps. Une question santé que tout le monde s'est posée au moins une fois. Le vapotage incite-t-il, amène-t-il à fumer ? Les jeunes, notamment, qui commencent avec la cigarette électronique, ont-ils plus de risques ensuite de se mettre à la cigarette tout court ? Eh bien, pas sûr. Récente enquête de l'INSERM qui tord le cou aux précédentes études. Attention toutefois, le résultat à l'ISCA Chaner est à manier avec prudence.
Le but de l'étude est de montrer s'il y a un lien entre cigarette électronique et tabagisme chez les jeunes. Et visiblement, ce lien n'est pas si flagrant. D'après cette enquête menée sur un large échantillon, ceux qui pour leur toute première fois choisissent la vapoteuse au lieu de la cigarette traditionnelle ont 42% de risque en moins de se retrouver à 18 ans avec une clope au coin des lèvres. Stéphane Le Gleil, chercheur à l'INSERM, y voit plusieurs explications.
On peut imaginer des mécanismes pour ça. Par exemple, c'était vraiment déjà pas très agréable d'expérimenter la cigarette. Je vais certainement pas passer au tabac. Je me détourne du tabac pour la santé. Et puis, il peut y avoir un effet d'opportunité. Bon, bah, la cigarette, je veux bien faire joujou avec. Mais de toute façon, je n'ai pas du tout l'intention de passer au tabac.
La cigarette électronique aurait donc un effet d'éviction. Et c'est encore plus vrai si le jeune commence à fumer tard. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que vapoter est une solution pour éviter le tabac. Loin de là. D'abord parce que la e-cigarette peut contenir de la nicotine. Il y a donc risque d'addiction. Et ensuite, car l'étude s'arrête aux jeunes de 18 ans. Rien ne nous dit donc que les ados interrogés ne se mettront pas à fumer quelques années plus tard.
La 5G sur des rails, l'État français l'a déjà autorisée dans près de 7000 communes. C'est la semaine prochaine que Bouygues et Orange lancent à leur tour leur nouveau réseau après SFR à Nice. La 5G est déjà possible dans 40 villes de plus de 100 000 habitants. Et puisque les librairies sont ouvertes, profitons-en. Coup de cœur France Inter ce matin pour Cyberpunk, histoire d'un futur imminent. Un livre richement illustré. Alexis de Meyer.
Tout a vraiment commencé en 1982 avec les succès du film Blade Runner et du manga Akira. Et si la révolution informatique est depuis le départ le thème central du cyberpunk, ses adeptes se sont aussi beaucoup intéressés à la médecine du futur et aux épidémies, ce qui résonne forcément avec la crise du coronavirus. Stéphanie Chaptal a coécrit le livre Cyberpunk avec Jean Z et Sylvain Navrocki.
Il y a même tout un sous-genre qui est dédié à la médecine, qui s'appelle le biopunk. C'est l'actualité qui nourrit la science-fiction qui va donner des pistes pour comprendre l'actualité. Donc tout ce qui fait peur dans les nouvelles technologies, y compris les technologies biogénétiques, nanotechnologies et autres, va se retrouver dans le cyberpunk.
Après un essoufflement dans les années 90, le cyberpunk a retrouvé des couleurs depuis une dizaine d'années grâce à une nouvelle génération d'auteurs, Stéphanie Chaptal.
Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont plus les mêmes créateurs à l'origine du cyberpunk. Avant, c'était un genre très masculin et maintenant, c'est un genre diversifié. On va avoir des créateurs qui vont venir d'un peu partout dans le monde, y compris d'Afrique. On va avoir des femmes, on va avoir des personnes LGBTI qui vont écrire du cyberpunk.
Le livre illustre aussi très bien l'aspect protéiforme de ce courant artistique qui inspire des jeux vidéo, des séries comme Black Mirror, mais aussi des musiciens de Kraftwerk à Daft Punk en passant par David Bowie. Now seems so thin and frail. Slinky secrets,
hotter than the sun. Oh, si on passait que du Bowie, non, Eric.
Je prends.
Cyberpunk, histoire d'un futur imminent, livre paru aux éditions Yinis. Enfin, c'est sa famille qui l'annonce ce matin. Jean-Louis Servan-Schreiber est mort, grand patron de presse, créateur de l'expansion, sauveur de Psychologie Magazine et benjamin de la fratrie. Jean-Louis Servan-Schreiber avait 83 ans.